repérage du bibliothécaire.
Bonjour Benigno.
Bonjour Marc, comment vas-tu?
M'écoute, avec Stiver qui a des soubresauts, c'est toujours intéressant.
Mais oui, écoute, c'est l'hiver, il y a la neige, il y a les vents, et puis évidemment il y a plein de nouveautés, des bons livres qu'on va lire, et qu'on a déjà lus d'ailleurs. Hein? Alors, comme d'habitude, on fait notre petite sélection.
Ouais, les petits repérages, volontiers.
Les petits repérages. Alors écoute, ce mois-ci la moisson a été très riche et variée. On a un peu de tous les genres, mais parmi les titres qu'on aimerait mettre en évidence, en valeur, il y en a quelques-uns qui sont pas forcément à l'origine des titres les plus populaires. On va pas, même si je dirais que ce mois-ci, on a aussi une petite sélection de polars qui vont dans toutes les latitudes, depuis l'Espagne, les États-Unis, etc., et puis qui sont extrêmement intéressants et prenants. Mais je parlais d'un roman, et après j'en parlerai d'autres, qui est un roman qui pourrait être classé comme roman historique, mais qui s'inscrit un peu dans cette mode. Tu te rappelles qu'on avait parlé il y a quelques temps de la mode Spinoza, de la mode un peu sur ces philosophes du XVIIe siècle, et qui étaient un peu ce qu'on appelle de manière un peu simpliste, philosophes de la foi, de la joie, du bonheur, etc. Et là, c'est pas un livre philosophique en tant que tel, c'est un roman, mais qui a été écrit par un monsieur qui est aussi philosophe, qui s'appelle Maxime Robert, et le livre s'appelle Les clans Spinoza. Et ce livre, il reconstruit l'ambiance de ce qui s'est passé en Europe, mais en particulier aux Pays-Bas, donc Amsterdam surtout, La Haye, etc. Et c'est un environnement qui était très riche, parce que, bon, évidemment, il y avait Spinoza, mais il y avait aussi des personnes qui étaient un peu déjà les précurseurs des encyclopédistes français, donc des gens qui s'intéressaient à tout, à la biologie, à la géologie, à toutes les sciences naturelles, la physique, mais bien entendu la religion, la théologie, la philosophie. Et il arrive, Maxime Robert, à donner une ambiance tout essant au milieu de tous ces gens-là, tout ça avec les doutes de Spinoza, avec les problèmes, la fuite, les conflits. Et donc, c'est vraiment très, très vivant. Et c'est une bonne manière, c'est une bonne introduction à ce monde-là et à cette philosophie. C'est-à-dire, on entre à travers le roman, on s'amuse, on parcourt, et en même temps, on apprend des choses. Donc ça, c'est sur ce livre. Et puis, comme d'habitude, c'est vrai, on doit donner les numéros. Les gens, nos auditeurs, se repèrent plus facilement. Ça s'appelle les repères, n'est-ce pas? Et c'est les 36261, les clans Spinoza. Amsterdam, l'invention de la liberté. C'est comme ça les titres complets. Voilà pour ce roman à caractère philosophique. Et puis un autre livre qui est un peu particulier. J'ai voulu en parler parce que, comme on fait, évidemment, on lit des romans policiers, des romans classiques, des romans d'amour, et aussi des livres un peu fantastiques, etc. Mais il y a des livres qui sont des grands classiques. C'est des livres qui devraient se trouver dans toutes les bibliothèques du monde. Et pour une fois, aussi pour nos auditeurs, on a aimé que des livres comme ça soient présents aussi pour ceux qui pourraient s'intéresser. En l'occurrence, il s'agit d'un livre qui a été écrit au XIe siècle. Hein, tu imagines, XIe siècle, qui a été écrit au Japon et qui a été écrit par une femme. C'est déjà assez d'éléments particuliers. Hein, XIe siècle, au Japon, par une femme.
C'est une vraie nouveauté.
Oui, voilà, d'une certaine manière, c'est une nouveauté. Exactement, une nouveauté à l'envers. Donc là, cette femme, qui était une femme, on va dire, de la noblesse japonaise de l'époque, elle s'appelle Murasaki Chikibu, C'est déjà pas évident à prononcer. Et Murasaki Chikibu, ou Chikibu Murasaki, c'est que les Japonais, comme d'autres peuples, ils mettent les noms de famille avant, si tu veux. Et donc, Murasaki Chikibu écrit un livre. Et alors en plus, comme elle avait du temps, comme elle était en 11e siècle, elle a dit qu'on aurait pas mal de siècles pour la lire. C'est un livre qui fait à peu près 68 heures, si tu veux, au niveau lecture, mais qui est d'une certaine manière passionnant parce qu'il donne tout ce monde de la cour japonaise de l'époque. Il y a à l'intérieur, il y a des histoires d'amour, de la poésie, de la philosophie, de la psychologie très fine, qu'on font parfois les Japonais, qui ont les petits détails de la psychologie des personnages, des intrigues romanesques, des intrigues aussi sentimentales, etc. Donc, et en même temps, les princes, donc il y a toutes ces histoires des cours et des pouvoirs. Donc, c'est un livre qui a une sorte d'ovni, mais qui est un ovni qui vaut la peine, qui intéressant, et donc s'appelle les discours Luedi du Genji, qui est le personnage, et c'est sous les numéros 36394.
C'est qui a eu le courage de lire ça?
Alors c'est Madame Dufour qui s'est lancée dans cette aventure. Mais écoute, voilà, donc ça c'est pour la lire du Genji. Et puis, on sort de la cour. Alors, on va changer complètement Bon, on était au XVIIe siècle à Amsterdam, qui est donc dans cette ambiance de réflexion philosophique. Là, c'est M. Cortésis qui a lu. Et là, on est parti au Japon au XIe siècle. Et là, on va être en plein 20e, voire 21e siècle, en Italie. Au sud de l'Italie. Et là, on va parler d'un petit livre qui, c'est des mémoires, c'est la mémoire d'un gaillard qui s'appelle Salvatore Striano. Alors, Salvatore Striano, c'est un personnage qui était un bandit, une sorte de voilà, il appartenait à un gang, et il faisait partie de la Camorra, tu connais, c'est cette sorte d'association de bienfaisance italienne, la Camorra, et donc, et là, il faisait la terreur à Naples, quoi. C'était vraiment drogue, tuerie, etc. Et puis, évidemment, comme il arrive parfois, rarement, mais parfois aux gens de la mafia, il se fait arrêter, et il va en prison. En Espagne, il s'est fait arrêter parce que voilà, c'est toute une cavale, on le chope en Espagne, etc. Et puis ensuite, en prison, on les transfère en Italie et il découvre soudainement le théâtre. Et ça devient une passion. Il commence à lire, d'ailleurs, il fait même un personnage féminin, tu vois, un gaillard de la Camorra en prison qui décide de faire, de jouer un personnage, il faut le faire quand même. Il faut presque avoir plus de courage pour ça que pour ce qu'il faisait avant, je dirais. Et il est devenu, Salvatore Striano, un des acteurs les plus cotés du théâtre italien maintenant. Et c'est un acteur de théâtre, c'est plus un mafieux.
Eh ben.
Alors donc ça s'appelle la tempête de Sasa, et je vais vous donner les numéros pour ceux qui seraient intéressés. C'est les 36387. Donc ça c'est la tempête de Sasa. Et donc là, comme ça, on a un petit peu des philosophes hollandais, des courtisans japonais et des mafieux acteurs italiens. En général, par le temps qui court, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Il y a des gens du cinéma, du théâtre, qu'on découvre que c'est des vrais bandits, mais là, en l'occurrence, c'était le contraire.
Et c'est bien recyclé.
Oui, voilà. Donc ça, c'est pour la sélection. Hein. Comme toujours, comme je t'ai dit, il y a tellement de choses. Et on fait des petits éclairages comme ça. Et évidemment, ce mois-ci, on a deux pièces de théâtre parmi celles qui sont produites. On les donne comme ça à des petites doses pour avoir toujours le plaisir d'avoir un petit peu de théâtre. Et donc, ce mois-ci, on a deux pièces de théâtre qui sont à disposition. C'est une de Maria Ndiaye, Papa doit manger, et puis une autre de Nathalie Sarraute. Elle est là, donc toutes les deux, bien entendu, lues par Polyphonie. Donc, comme toujours, on fait un petit éclairage aussi sur ce qui est sur le four, que ce soit en lecture ou en production, ou en lecture, ou déjà presque sur le point de sortir. Alors, dans ces cas-là, parmi tous les livres qui sont en lecture ou qui sont déjà en train d'être travaillé par nos collègues de la prod. On a deux, et on en a deux, un qui est déjà presque sur le point de sortir, qui c'est aussi des mémoires, tiens, et c'est aussi des mémoires d'une personne qui a été un petit peu voyue, un petit peu, mais pas de la même manière. Et c'est le livre d'une une Russe qui s'appelle Evgenia Yaroslavskaya Markon. Le livre s'appelle Révolté, c'est ses mémoires. Et c'est cette femme qui, à l'époque de la Russie, après Lénine, Staline, enfin surtout à l'époque stalinienne, c'était une intellectuelle, d'une famille intellectuelle d'origine juive, russe, etc. Et révolutionnaire, vraiment révolutionnaire, qui, une fois, par inattention, enfin on va dire, on est tombé sur les voies, a perdu les jambes, un train les passait dessus, bon tu vois, la vie c'est pas joyeuse, et qui a décidé, parce qu'elle était intellectuelle et qu'elle pensait que les gens qui contrôlaient le pouvoir n'étaient pas des vrais révolutionnaires, parce qu'elle a dit des choses super, très intéressantes, ce sont des mémoires, et après je te dirai comment elle a écrit ses mémoires. Il a dit que la notion des révolutions, c'est un mouvement, si on arrête, c'est plus une révolution, et donc il dit, de ce point de vue-là, aucun État du monde, par son essence même, ne peut être révolutionnaire. C'est-à-dire que si un État contrôle le pouvoir, se prétend révolutionnaire, c'est pas vrai. Donc, elle a dit, la manière, ou ça, elle a réfléchi, la manière, enfin, ceux qui sont les vrais révolutionnaires, c'est les hors-la-loi. C'est les gens qui sont les marginaux, les bandits, et elle a décidé d'être voleuse, d'entrer dans la pègre par idéologie. Pas pour aider. Donc c'est assez particulier. Et c'est là sa manière de s'opposer au pouvoir stalinien. Et se fait arrêter. Et la tendresse n'était pas la qualité principale des sbires de Staline. Elle est envoyée au Sibzoloki, qui était à un endroit légèrement plus frais que ce qu'il fait maintenant, à la Vrevine. Mmh. Et là-bas, à un moment donné, comme il arrive souvent, elle est condamnée à mort. Donc elle va être fusillée. Et on le dit, comme il faisait souvent Staline, il faut que tu te confesses, que tu confesses tes crimes, tes péchés, etc. Et puis elle a dit, d'accord, donnez-moi du papier. Et puis elle a profité pour écrire cette autobiographie. Mmh. Qui a été trafiquée, il y a un gars qui l'a caché, et puis ça a été découvert. Donc c'est son autobiographie. Sa confession avant sa mise à mort qu'elle a écrite, qui a été découverte. Il s'appelle Révolté. Et donc c'est un livre assez fort. Ouais. Donc ça s'appelle Evgenia Yaroslavskaya Markon. Voilà, ça c'est pour un des livres qui est en prod. Et puis l'autre, je parlais brièvement. Et c'est tout à fait à notre registre, c'est un livre de vulgarisation scientifique d'un anglais qui s'appelle Martin Stevens, et le livre s'appelle Les ruses de la nature. Pas les ruses, mais les ruses, parce que là on a eu une ruse avant. Mm-hmm. Et donc là c'est tout ces des choses dont on a entendu parler, dont on qu'on connaît un petit peu, mais là il va vraiment en détail et d'une manière très pédagogique, très très accessible, et sur tous les petits astuces qui ont les animaux et les plantes pour survivre. Comment un se déguise en l'autre, comment se rend plus dangereux qu'il est pour ne pas se faire attraper, et les papillons qui se déguisent en insectes toxiques dangereux pour ne pas se faire bouffer, et, etc. Donc il fait un peu, passe en revue tous les artiluces, tous les malices qui ont les animaux et les plantes pour survivre, et c'est très intéressant comme livre. Ça s'appelle Les ruses de la nature. Voilà. Et ça, c'est Sur le feu.
Et pour le futur, qu'est-ce que
alors
tu
pour le proposes? Futur, sur la table, là, ici, il y a, bon, évidemment, toute une belle sélection. Mais il y a un livre qui n'est pas forcément un chef-d'œuvre de la littérature, c'est aussi un documentaire, mais c'est l'actualité la plus brûlante. D'ailleurs, le titre, c'est le feu, et la fureur. Et si je t'ai dit un mot qui se trouve sur la quatrième de couverture, et un idiot entouré de clowns, d'après toi, c'est qui?
Ça peut être Trump, par exemple.
Et voilà, Trump à la Maison Blanche. Donc c'est, c'est le sous-titre du livre. Et puis c'est un livre de Michael Wolff qui a fait beaucoup de bruit et à la sortie. Il est sorti il n'y a pas longtemps en anglais. Et donc ils l'ont traduit. C'est pour ça qu'il y a, il y a quatre traducteurs, alors que le livre, c'est pas extrêmement gros. Mais comme ils voulaient que ça sorte aussi en français... Ils ont travaillé d'arrache-pied. Et puis, c'est un peu c'est monsieur Michael Wolff qui a été proche de Trump et de la Maison Blanche, qui balance, et se donne à cœur joie pour balancer tous les turpitudes et tous les marécages qu'il y a dans l'entourage de Trump et de tous ces personnages, donc Bannon et autres. Donc voilà, c'est un livre un peu croustillant et puis, bon, évidemment, d'actualité.
Alors, ça va faire un futur assassinat.
Ouais, écoute, on verra bien. En tout cas, le livre a été un grand succès outre-Atlantique. Et puis, je pense qu'ici, en tout cas, pour avoir une vision de l'intérieur de ce qui se passe à la Maison-Blanche, ça manque pas d'intérêt. Mmh. Voilà.
Quelle est un petit peu la tendance actuelle en librairie?
Ah, mais la tendance, c'est plus qu'une tendance, c'est vraiment un raz-de-marée local, parce que tu sais qu'aujourd'hui sort les derniers Dicker, le nouveau Dicker, qu'on va avoir bientôt, si on veut dire. Et puis la disparition de Stéphanie Meiler, chose comme ça, que ça s'appelle. Mmh. Donc, en plus, tous les librairies romandes se préparent à recevoir Dicker. Et donc, ça va être dans toutes les bouches, dans tous les journaux, etc. Et très malin, parce qu'il tombe un peu dans la... Tu vois, il y a eu la rentrée d'hiver, la rentrée littéraire d'hiver, ça commence à diminuer un peu. Bon, il y a toujours des belles choses qui sortent, mais il s'est mis dans les creux de la vague, comme ça, il y a de la place.
Comme ça, on le voit. Ouais.
Voilà, et donc, ça c'est un peu ce qui va sortir. Puis sinon, évidemment, il y a... des auteurs romans qui sortent toujours, des grands auteurs étrangers, nordiques, un déferlement des polars, notamment italiens, qui sont très bien faits, avec la problématique évidemment qui leur concerne le plus ces sociétés qui gèrent un peu l'économie souterraine là-bas, mais aussi des polars du monde entier. Mais la prochaine fois, on parlera des quelques écrivains d'Europe, pas forcément anglo-saxons, mais qui, je pense, vont marquer un petit peu les prochains mois, des mêmes qu'on va explorer un petit peu des domaines aussi moins connu, mais ça viendra pour la prochaine fois.
Magnifique, merci Benigno. Le temps d'un petit jingle et on se retrouve de l'autre côté pour la sélection de la BSR.